9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, amis auditrices et auditeurs. Maître Serrane est ravi de vous accueillir dans votre émission de droit. Oui, votre émission, car ce sont vos questions qui, pendant une heure, vont nous permettre d'échanger et trouver, dans la mesure du possible, la meilleure des solutions à vos problèmes. Consultation gratuite, donc, pour les plus rapides d'entre vous, qui composeraient le 01 53 48 3000. Et pour le prix de cette consultation, que vous n'aurez donc pas à régler, vous pourrez offrir un joli repas à votre moitié. Ainsi, grâce à nous, des couples, mon cher Philippe, vont pouvoir s'offrir un petit extra que demande le peuple. Mais je ne vous ai pas tout dit, comme nous sommes le 15 juillet, donc à un mois et demi de la rentrée des classes qui, je le répète, arrive à grands pas. Message pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez. Et vous auriez d'ailleurs le droit de vous dire, il nous saoule avec sa rentrée. Mais croyez-moi, le temps passe vite. Demain, la rentrée, puis votre premier boulot, votre vie familiale, et puis vous entendrez un jour un type réciter la prière aux morts, d'abord pour votre entourage, puis la prière aux morts, mais le mort, ce sera vous. Alors profitez bien de vos années sur cette terre. Donc je vous disais que nous faisons l'émission non pas en direct de nos studios habituels, mais dans un lieu que je ne connais pas, puisque, mon cher Philippe, vous avez adopté le principe de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, où l'on bande les yeux de l'invité, qui ne connaît donc pas sa destination, mais au lieu de prendre l'avion, vous m'avez fait monter dans une voiture. On n'a manifestement pas le même budget. Et après avoir longuement roulé, toujours accompagné de notre camarade Faudil, nous nous sommes arrêtés immédiatement après être sortis du véhicule. Je sens le sable me caresser les pieds. Jusque-là, tout va bien. Je dois reconnaître que la sensation est bonne. Attention, tiens, j'entends des gens autour de nous. Nous ne sommes donc pas seuls. Je retire mon bandeau. Ah oui, quand même, carrément, les gars. On est dans un camp naturiste. Bon, j'aurais pu m'en douter quand vous m'avez dit que là, on allait, la tenue d'Ève était imposée. Et donc, mon cher Philippe, vous êtes avec Faudil déjà sans slibard. Bon, et puis allez, pourquoi pas. Allez, je vais jouer le jeu. Nous présenterons donc l'émission et répondrons à vos questions tout nus. D'ailleurs, pour ceux qui auraient des doutes sur ce que je vous déclare, vous pouvez vous connecter sur Internet. On est filmé. Mais avant de répondre à vos questions et d'avoir trop de dans le fiacre, évoquons l'actualité de la semaine. Merde, j'ai failli tomber en me levant, j'ai marché sur mon sgeg. Et tout d'abord, une seconde de silence pour celui qui s'est comporté comme le traître des traîtres et qui s'est senti pousser des ailes en allant défier Poutine à Moscou, et ce, à la grande joie des Occidentaux, monsieur Prigogine. Ce dernier est depuis son excès de zèle et depuis sa rencontre le 29 juin dernier avec le maître du Kremlin porté disparu. On savait Prigogine fou pour avoir défié Poutine, mais on rajoutera que ce type est manifestement naïf pour avoir accepté de rencontrer Poutine après l'avoir trahi. Il se dit que monsieur Poutine serait à l'origine de la disparition du chef de Wagner. Qui peut croire ça? Qui peut croire qu'un type formé au KGB qui tient la Russie d'une main de fer soit rancunier à ce point? Mais laissons les affaires intérieures russes pour en revenir à ce pourquoi nous sommes ici. Vos questions au 01 53 48 3000, émission sous le contrôle de celui pour qui le naturisme est une philosophie de vie, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Il est temps que la saison se termine, maître Serrane. Hein. Je pense que vous êtes fatigué.
Hein. Mais pourquoi?
Mais je ne sais pas. Parce que vous avez beaucoup travaillé.
Déjà.
Vous êtes fatigué.
Déjà.
D'abord, on n'est pas du tout nu.
Vous avez des doutes hein, quand même. Vous avez peur que tout le monde se connecte pour vérifier.
Non, mais non, on est très très habillé. D'abord, il fait tellement froid.
Ouais, il fait froid.
Que dans le studio. Hein,
ouais, d'ailleurs, moi j'ai chaud. Je suis obligé de me mettre à l'aise. Bon. Pas tout nu non plus.
Vous êtes venu avec Ghost.
Oui, je suis venu avec avec Ghost, puisque vous vouliez.
Je voulais voir le petit.
Vous vouliez voir s'il avait grandi.
Je voulais voir Ghost Serrane.
Voilà. Donc, est-ce qu'il a pris du volume?
Ah ouais. Il est mignon comme tout.
Bon, bah voilà.
Tu sais, il regarde Faudil avec beaucoup d'envie.
Oui, ça c'est vrai.
Et Faudil.
Mais l'amour n'est pas réciproque aussi, je crois.
A peur, on dirait.
Ouais, ouais. Ouais, c'est surprenant.
Il a le mollet qui est très tentant pour Ghost.
Le mollet qui tremble même.
Viens Ghost, viens voir tonton Faudil.
Ah ouais, là il est allongé, tranquille.
Alors, vous êtes au courant, maître Serrane? Alors, il y a un réseau à Saint-Ouen qui serait dirigé par MS qui vous fournirait des rendez-vous à la préfecture. Alors, c'est entre 800 et 1000 euros.
Ouais.
Est-ce que vous avez entendu parler de ce trafic de rendez-vous à la préfecture?
Ah ouais, mais c'est un vrai fléau.
Non.
Ah ouais, c'est un vrai fléau.
Alors, il a un chien qui s'appelle G et un garde du corps qui s'appelle
Alors, Nico. La personne à qui vous pensez n'est absolument pas concernée, ni de près ni de loin, par ce trafic, mais ce trafic existe. Et c'est un trafic qui a été, j'allais presque dire, insufflé par la préfecture elle-même. Il faut savoir que avant les rendez-vous qui étaient pris via le site internet des autorités préfectorales, c'était le truc classique, on se présentait à 2, 3, 4 heures du matin, on faisait une queue pas possible.
On prenait un ticket, voilà. Il y avait un ticket.
On prenait un ticket papier. Et puis, si vous étiez le 200e, eh ben, il fallait revenir le lendemain. Les autorités préfectorales ont profité aussi de cette période Covid pour instituer donc le système qui consiste à prendre rendez-vous via Internet. Sur le principe, ça pouvait sembler intéressant. Prenez rendez-vous via Internet, ça vous évite de faire une queue pas possible. Et puis, le jour J, vous venez avec votre dossier, vous déposez votre dossier.
Ouais,
vous
le jour J et à l'heure dite.
Voilà, il y a pas de queue, c'est exactement voilà. Ça. On vous en met un récépissé et puis vous attendez la réponse. Sauf que on n'est pas dans le meilleur des mondes. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si vous vous connectez auprès de la préfecture X ou Y, on vous dit qu'il n'y a pas de place et de rendez-vous disponibles et donc on vous invite à vous reconnecter. Ça peut arriver, pourquoi pas, sauf que quand vous le faites 50 fois de suite et qu'on et vous avez toujours la même réponse, on se pose la question. On se pose la question d'autant plus qu'en parallèle, vous avez des personnes qui, alors d'aucuns vous disent on se connecte H24 et puis ils prennent tous les rendez-vous. Et puis les rendez-vous sont ensuite monnayés auprès des uns et des autres. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un rendez-vous et qu'en me connectant, je ne trouve pas de plage de rendez-vous, je peux aller voir Monsieur X ou Madame Y qui va me donner un rendez-vous. Donc, elle va vous remettre un document avec le jour et l'heure. Sauf que ce rendez-vous, j'ai vu tous les tarifs. Le tout premier, lorsqu'un client en a parlé, c'était à hauteur de 800 euros, puisque, encore une fois, quand on n'a pas trop le choix, eh ben, c'est assez, entre guillemets, tentant. Et puis, on a vu 1000 euros, 1005. Ce qu'il faut savoir, c'est que rendez-vous ne veut pas dire que les autorités préfectorales vont vous donner un titre. C'est-à-dire que vous êtes, entre guillemets, après avoir payé le montant sollicité, vous êtes invité à vous présenter à la préfecture, et puis ensuite, la préfecture pourrait vous dire, pour des raisons lambda, que le dossier n'est pas suffisant, et puis vous pouvez faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Donc souvent, quand j'ai des personnes qui débarquent avec leur rendez-vous, elles ont l'impression que c'est le rendez-vous pour récupérer son titre de séjour. Non, c'est juste un rendez-vous pour déposer un dossier. Et c'est là qu'est le scandale.
Mais attendez, mais est-ce que le rendez-vous est valable déjà ?
Alors, vous avez des rendez-vous qui sont, et j'allais y venir, qui sont parfois valables. C'est-à-dire que vous avez un vrai rendez-vous, vous allez à la préfecture, vous êtes inscrit, à votre nom, il n'y a pas de difficulté.
Non, mais ça, c'est vous qui l'avez pris, celui-là.
Même des personnes qui le prennent et qui le monnayent. Et puis, il y a la très mauvaise surprise. Vous avez payé un rendez-vous et vous vous présentez sur place et on vous dit que vous n'apparaissez nulle part. Et c'est là, évidemment, qu'on se rend compte qu'on a été tout simplement dupé, puisque vous avez payé, encore une fois, entre 800 et 1000 et 1500 euros, un bout de papier. C'est-à-dire vous avez un document avec le logo de la préfecture, avec votre nom dessus, et puis ça ne correspond strictement à rien. Et ces arnaques se sont quand même multipliées. Alors, ce qui se passe, c'est que... Alors, on a certaines préfectures qui fonctionnent encore comme ça. On a d'autres préfectures qui ont, j'imagine que c'est à cause de ça, qui ont fait en sorte de rectifier le tir, puisqu'au sein de certaines préfectures, aujourd'hui, vous pouvez déposer votre dossier en procédant à un téléchargement. Vous allez scanner toutes vos pièces et vous envoyez ce dossier. Alors d'abord, un, ça vous évite un rendez-vous. Deux, ça vous évite de vous faire arnaquer, de payer un rendez-vous fictif. Et trois, évidemment, c'est extrêmement pratique. Vous avez, alors on va pas vous remettre un récépissé dans le sens juridique du terme, mais vous avez un mail qui vous dit que votre dossier est enregistré. Donc dans l'absolu, vous imprimez ça, vous baladez avec. Si demain vous faites l'objet d'un contrôle, et puis la préfecture reviendra vers vous. Donc ça, c'est quand même intéressant par rapport, encore une fois, à cette période de flottement où on a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir et comprendre que très souvent, l'étranger en situation irrégulière, entre guillemets, se fait arnaquer, mais dans tous les sens. Il se fait arnaquer parfois par l'employeur qui le prend et qui ne le paye pas et qui lui dit bah, « si t'es pas content, t'as qu'à aller déposer plainte ». Quand on n'a pas de papier, évidemment, en règle générale, on baisse la tête. Qui s'est fait arnaquer ou se fait arnaquer parfois par ce rendez-vous fictif, qui s'est fait ou qui se fait arnaquer parfois par des juristes et des avocats. Donc c'est un marché où on a des personnes qui sont en situation de faiblesse, et quand vous êtes en situation de faiblesse, malheureusement vous finissez par accepter entre guillemets un peu tout et n'importe quoi à partir du moment où on laisse entendre qu'il y a ou qu'il y aurait un peu d'espoir.
On vous vend du rêve. Est-ce que, alors finalement, d'un point de vue légal, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quand même très illégal.
Bah, c'est illégal, puisque, encore une fois, on appelle ça une escroquerie, tout simplement. Sauf que, en vérité, je suis une personne en situation irrégulière.
Oui.
J'ai acheté un rendez-vous, alors qu'en principe, je dois me connecter pour avoir ce rendez-vous.
Rendez-vous, c'est gratuit. Hein,
bah, voilà.
C'est ça.
Ah c'est, oui, la règle étant que le rendez-vous voilà, sur Internet, c'est gratuit. Mais j'ai payé ce rendez-vous. Je me rends compte que c'est une arnaque. Quel est l'étranger qui aurait l'idée de dire « Ok, je vais aller au commissariat déposer plainte contre X ou Y, d'abord sous réserve de retrouver l'intéressé, mais vous allez expliquer votre histoire comment aux policiers ?» Donc, vous imaginez bien que compte tenu de la situation, c'est toujours tout bénef pour les personnes qui ont organisé ces escroqueries et ces filières. On se doute bien que l'étranger arnaqué va pas aller au commissariat, va pas aller à la gendarmerie. Sa situation sur le territoire français est déjà très fragile. Alors si en plus il est signalé comme personne ayant acheté un rendez-vous pour éventuellement être régularisé, ça va poser difficulté pour lui. C'est-à-dire que il est même pas certain que les policiers s'intéressent à celui qui lui a vendu le rendez-vous. Et je crois que les policiers vont surtout emmerder le pauvre type qui a déjà été arnaqué et qui risque de se retrouver ensuite avec des difficultés juridiques, judiciaires.
Alors, on retrouverait ces rendez-vous sur les réseaux sociaux, en vente, mais à un moment donné, est-ce que, ben justement, les autorités ne peuvent pas se saisir et quand même faire le ménage?
Ben, ça semble évident, c'est-à-dire que normalement, encore une fois, à partir du moment où je suis l'autorité administrative et j'organise, alors c'est bien ou pas bien, bien organisé ou pas, mais peu importe, mais il y a une manière officielle de solliciter les préfectures et de venir en rendez-vous, on pourrait se dire que si l'avocat que je suis le sait, que si on a des personnes qui prennent des rendez-vous, que si d'autres personnes sont informées de cette escroquerie, encore une fois, c'est pas un petit truc qui se fait en cachette, les autorités officielles sont informées également de cette situation. Au moment où je vous parle, en tout cas, j'ai pas entendu parler de procédure particulière qui consisterait à remonter une filière ou des personnes qui ont ou auraient été interpellées pour avoir, encore une fois, escroqué les intéressés. Il se dit, mais ça vaut ce que ça vaut, que parmi les participants à ces rendez-vous, alors pas les rendez-vous fictifs, mais des vrais rendez-vous, il se dit que des personnes de la préfecture y participeraient aussi, parce que ça reste quand même très lucratif. À partir du moment où vous avez toutes les difficultés du monde à avoir un rendez-vous en passant, entre guillemets, par le site officiel et que quelqu'un vous dit « mais ça fait X mois, pour pas dire année, que tu essaies d'avoir un rendez-vous, moi je peux t'avoir un rendez-vous », on se pose la question de savoir si c'est simplement monsieur ou madame X, inconnu du système, qui peut obtenir ce rendez-vous tel que, ou si ça vient pas de l'intérieur même du système préfectoral. Donc, mais encore une fois, c'est comme dans tous les domaines.
Vous pensez bien que les autorités se sont penchées sur la question, médecin.
Ben oui, mais jusqu'à quel niveau? Encore une fois, ça reste, il faut s'en rendre compte quand même, ça reste hyper lucratif. C'est-à-dire que je vais vous donner simplement un petit papier avec votre nom et un rendez-vous. Et je vous dis, encore une fois, ça papillonne entre 800 et 1000, 1500 euros. Et entre guillemets, ça me coûte rien. C'est-à-dire que je prends le rendez-vous, je vais vous le donner, et ensuite, quel que soit le résultat, si le résultat est négatif, l'intéressé va pas venir vous rembourser en disant je suis désolé. Donc ça reste très lucratif. Alors peut-être que demain, après-demain, à la suite d'enquête, on mettra la main sur X ou Y, mais on va pas jouer les naïfs. Ça ne peut pas et ça ne pouvait pas se faire sans une quelconque complicité interne.
Il y a d'autres pays où ça existe.
Alors, on a ce système-là en Italie. D'ailleurs, la France s'est inspirée du système italien. Mais le système italien, alors qu'on trouvait, à nous, avocats, on nous en a parlé dès le début, on trouvait ça magnifique, puisqu'effectivement, encore une fois, je le redis, moi, j'ai connu les périodes quand j'accompagnais, j'ai dû accompagner mes parents, là, même une ou deux fois, ou encore, on avait l'impression d'être des moutons. C'est-à-dire que, quel que soit le temps, il fait froid, il pleut, ce que vous voulez, vous faites une queue pas possible, et puis on vous accueillait pas avec la plus grande des gentillesses. C'est-à-dire que c'était même violent au niveau des autorités préfectorales. Donc c'était de la maltraitance. Donc c'est sûr que aujourd'hui se dire bon bah tout ça c'est du passé et puis via internet on peut prendre son petit rendez-vous et se présenter tranquille à heure fixe sans encore une fois sans patienter des heures. Évidemment, on se dit que c'est un progrès. Alors c'est un système qui continue de bien fonctionner en Italie, mais sur le territoire français, c'est plus que problématique. Et d'ailleurs, dans un dossier qu'on a déposé il n'y a pas longtemps via Internet, encore une fois, on a téléchargé les pièces, j'ai relancé la préfecture et on me répond, ça prend entre 6 mois et 1 an pour avoir un retour. Alors que le truc classique, c'est en principe 4 mois si vous n'avez pas de réponse, refus implicite et vous allez devant le tribunal. Et là, j'ai imprimé le mail pour me dire, écoutez, le délai est entre guillemets normal, donc c'est entre 6 mois et 1 an, il faut patienter. Donc ça peut être intéressant pour déposer le dossier, mais c'est pas plus rapide pour autant.
Au niveau du traitement.
Ah non.
Alors peut-être que vous aussi, ce matin qui nous écoutez, vous avez été victime de ces fameux rendez-vous que vous avez payé pour vous rendre à la préfecture. Vous serez les bienvenus pour témoigner dans un instant. Et toutes vos questions juridiques, ça sent les vacances, Maître Serran. Hein,
bah oui.
Je pense que si vous avez des questions juridiques, c'est maintenant.
Ou jamais.
La semaine prochaine, je suis pas sûr.
Serran a garé
la 504 en bas.
Bah c'est ça, avec la galerie, les valises qui sont déjà prêtes, toujours une semaine à l'avance. Voilà, mais la 504 est une voiture très très solide. Hein.
Allez, 01-53-48-3000, 01-53-48-3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et Ghost Serran qui est avec nous. Ghost Serran qui tient vraiment de son maître, hein.
Voilà. Il est tranquille quand même, non?
Ouais, il est tranquille.
Ouais, il se tient bien.
Mais vous l'avez lâché là?
Non, on sait jamais.
Ouais, non,
imaginez, il va vers Faudil qui ne supporte pas les chiens.
Non, mais non.
Ouais, qui te font peur peut-être, non?
Faut dire que Ghost fait un peu peur quand même.
Ouais, ouais, en même temps, c'est un peu pour ça.
Faudil, tu voudrais que Ghost te fasse un.
Non. Reste là où il est, c'est mieux pour lui. Et c'est mieux pour moi aussi. C'est mieux pour tout le monde.
Bon, alors maintenant qu'on est bien installé, on peut accueillir Tiffany qui est avec nous au 01 53 48 3000. Tiffany, bienvenue.
Bonjour
Tiffany.
Ah, je n'entends pas Tiffany.
Ah, c'est bien embêtant. Alors, attendez.
Vous m'entendez ?
Attendez, on va juste brancher Maître Serran, on va le raccorder avec le son comme ça.
Ah ouais, casque et tout.
Ah bah non, mais là vous êtes casqué Maître Serran. C'est la seule solution. Comme ça Tiffany, Maître Serran.
Je sais très bien que le casque me décoiffe.
C'est vrai.
Et que j'ai horreur d'être décoiffé.
Mais comme on n'est pas filmé, c'est pas très grave si vous êtes décoiffé. Ah, on a failli perdre Faudil, là.
En direct. Ah ouais.
Moi, je vous avais dit, Maître Serran, que ce chien était un peu comme son maître.
Allez, viens là. Alors, ah ouais, d'accord, le casque.
Ouais.
Ah, attendez une seconde.
Voilà, vous savez, Tiffany, on devrait filmer ce qui se passe là pour pouvoir vous entendre. Allez, c'est parfait. Alors, on vous écoute, Tiffany.
Oui, mais il très bien.
Là, Tiffany parle ? J'entends rien.
Vous m'entendez ?
Je crois qu'il ne marche pas le casque, hein, les gars.
Non, allez, mettez-le dans l'autre trou.
Le trou ? Ok. Je vais faire le poirier. Ouais, c'est bon. Alors, Tiffany ?
Oui.
Ah,
vous
c'est
vous
bon.
M'entendez ?
Voilà, je vous entends, Tiffany.
Très bien. Alors moi je vous contacte car j'ai un très gros problème et je ne sais plus du tout quoi faire.
Allez, on vous écoute.
Alors, j'ai confié mes deux véhicules à une personne, et lors de mon voyage, sauf que...
J'ai pas compris. J'ai confié mes deux véhicules à un ami. Et pourquoi vous lui avez confié vos deux véhicules?
J'étais partie à l'étranger et j'avais peur pour le stationnement. Donc je lui avais montré où se trouvaient mes véhicules, je les avais pris en photo et je lui ai demandé voilà, si c'était possible de éventuellement le déplacer, si c'était nécessaire, etc. Ou s'il y avait un souci pour, je ne sais pas moi, par exemple, le nettoyage municipal, etc. Donc là, effectivement, il faut déplacer les véhicules.
D'accord. Les deux véhicules sont à votre nom?
Oui, tout à fait.
D'accord. Ensuite?
Sauf que à mon retour, au mois de mars, j'ai demandé à récupérer mes véhicules et cette personne n'a rien entendu.
D'accord. Alors, rien entendu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus garés là où ils étaient à l'origine?
Il n'avait pas mis le bon casque.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, en fin de compte, cette personne-là utilisait mes véhicules pour, je sais pas, sortir avec, etc. D'ailleurs, j'ai même reçu quelques amendes. Il a accepté de payer, sauf que les points m'ont été retirés.
Ouais.
Et lorsque je suis venue, comme je vous ai déjà dit, j'ai essayé de récupérer mes véhicules et rien n'y fait. À chaque week-end, ils me trouvaient un motif divers. Donc, ce week-end, je peux pas, je travaille. Ce week-end, je suis malade. Ce week-end, voilà. Et c'est passé comme ça pendant 2 mois. Sauf que bon, ça commençait à m'inquiéter, cette histoire-là. Donc, j'en ai parlé à mon assurance pour savoir ce qu'il en était. Elle m'a dit que rien n'a été signalé par rapport à mon véhicule. Sauf que on m'a conseillé, c'était d'envoyer donc des courriers. Donc j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé un recommandé, une mise en demeure, et j'ai toujours pas eu aucune réponse. Donc à partir de là, je suis partie au commissariat, j'ai voulu faire une plainte. Sauf que ma plainte, ça a été juste abus de confiance. Et là, actuellement, mon deuxième véhicule, donc il m'a rendu un seul de mes véhicules parce que je suis repartie à l'étranger, donc il me l'a rendu je crois un jour avant, enfin la veille. Le lendemain matin, je retrouve mon véhicule accidenté, il n'y a pas eu de constat qui a été fait. Il y a eu des témoins effectivement parce que eux-mêmes sont descendus, on s'est croisés, donc ils ont constaté l'horreur avec moi. Et il y a la caméra de municipalité. Donc quand j'ai demandé au commissariat si c'était possible justement d'avoir ces vidéos-là, parce que c'était une preuve que c'était lui qui m'a apporté le véhicule et moi le lendemain qui avait vu et constaté le véhicule accidenté, ils ont refusé. Et puis ensuite, j'ai continué quand même à poser plainte pour le vol de mon deuxième véhicule parce que je ne l'ai jamais reçu, je ne l'ai jamais vu depuis et ça n'a toujours pas été fait. Donc là, c'est juste plainte pour abus de confiance. Mmh. Voilà.
Alors, la qualification est bonne, c'est-à-dire que pour l'instant, à partir du moment où c'est une personne que vous connaissez, que vous venez vous-même de qualifier d'ami, alors ça me semble maintenant rétrospectivement un terme qui est peut-être pas approprié à ce type-là, mais c'est normal que les policiers enregistrent la plainte pour abus de confiance. L'abus de confiance, c'est je mets à disposition, en tout cas je vous invite à voilà, à surveiller quelque chose qui m'appartient, ou je vous prête même quelque chose qui m'appartient, et puis ce quelque chose, pour des raisons lambda, vous ne le restituez pas. Donc, quand les policiers prennent la plainte pour abus de confiance, c'est la bonne qualification. Est-ce que ce type a été convoqué entre-temps? Il a été entendu par les policiers ou pas encore?
Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Alors c'est vrai que il y a certaines affaires, ça peut sembler curieux mais c'est comme ça, il y a certaines affaires pour lesquelles les policiers considèrent qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de vie en danger. Bon alors c'est un véhicule qui concerne madame, alors on se doute bien que vous en avez peut-être besoin, mais là encore c'est entre guillemets c'est pas vital, donc il risque de mettre beaucoup de temps pour inviter ce type à apporter une explication et ensuite pour que le dossier soit transmis au procureur de la République et éventuellement donc poursuivi devant un tribunal. C'est-à-dire qu'il suffit pas simplement de déposer une plainte auprès du commissariat, même quand on est sûr de soi, c'est-à-dire même quand on se dit mais moi j'ai rien à me reprocher, et de se dire bon ben ça va aller très vite. Malheureusement ça va prendre du temps. Mais en dehors des autorités préfectorales, ce type-là qui se sont poussés des ailes, donc par définition, j'imagine que vous connaissez son adresse. Vous êtes entretenu avec lui en tête à tête ou accompagné d'un truc qui s'appelle une batte de baseball ou vous lui avez demandé des explications?
Alors non, parce que tout simplement lorsque je suis partie à l'étranger, il a commencé à harceler ma fille qui était toute seule au domicile, elle est handicapée et il n'a pas arrêté de l'appeler, du coup je lui ai conseillé de le bloquer, donc chose qu'elle a fait, et puis ensuite il s'est carrément permis de venir directement au domicile et les voisins ont été témoins parce que ma fille complètement paniquée en train de pleurer. En fait, j'ai dû intervenir de l'étranger, j'ai dû appeler d'urgence une voisine pour confirmer si c'était vraiment lui, parce que même moi, ça m'a vraiment beaucoup étonnée.
Mais il attendait quoi en se présentant au domicile? C'était pourquoi? Pour vous parler? Qu'est-ce qui vous donne une explication? C'était quoi son intérêt?
Non, du tout. En fait, étant donné que j'étais à l'étranger, il a commencé à harceler ma fille, donc lui faire des avances, et elle a refusé. Du coup, on a imprimé là les conversations de WhatsApp. Donc ça a été fait par WhatsApp, par mail, par téléphone aussi. Donc voilà.
Mais madame, vous avez présenté cette personne comme étant un ami. C'est-à-dire que vous entendez quoi par ami? Enfin, quelqu'un qui fait tout ça, qui vient harceler votre fille, qui vous arnaque pour vos véhicules. Enfin, c'est un ami dans quel sens?
En fait, c'est le mari d'une amie. Et cette amie-là était à l'étranger elle-même. Du coup, il s'est gentiment proposé parce que moi, je l'ai téléphoné justement pour lui demander si c'était possible de garder les clés. Il m'a dit, ma femme, elle n'est pas là, mais moi, je peux éventuellement te garder les véhicules avec grand plaisir. Donc, je me suis pas méfiée à ce moment-là.
D'accord. Et la femme de ce type-là, elle en pense quoi?
Bah, impossible de la joindre. Je ne sais pas pourquoi.
Vous avez des bons amis. C'est extraordinaire, ça.
Non, alors, à l'étranger, elle n'a pas de réseau. Et puis, je ne sais pas, ensuite, elle est venue...
Et alors là, pas de réseau à l'étranger. Je ne sais pas où elle est à l'étranger, ouais, mais maintenant, il y a du réseau à l'étranger. Hein.
C'était la campagne. Hein.
D'accord. À moins d'être au fin fond d'un volcan en éruption, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, aujourd'hui, oui, il y a du réseau quand on est de bonne foi et quand on veut discuter avec X ou Y. Enfin bon, a priori c'est votre ami, mais manifestement vous la connaissez pas si bien que ça. Bon, indépendamment de ça, malheureusement le nécessaire entre guillemets, enfin à part aller tabasser le type et le torturer, mais le nécessaire sur un plan purement juridique a été fait. Alors il faudra éventuellement relancer, quitte à embêter, pour ne pas dire harceler, les autorités policières, puisque j'imagine que tout ça vous handicape grandement. Mais le nécessaire sur un plan purement juridique, vous l'avez fait. Votre compagnie d'assurance, elle vous dit quoi? Est-ce qu'elle vous a proposé l'intervention d'un avocat? En règle générale, c'est pris en charge par leur service. Ça a été fait, ça, ou pas?
Alors, justement, c'est grâce à leur conseil juridique que j'ai pu comprendre qu'il fallait envoyer une mise en demeure avec un délai, avec le nom de l'article, etc. Donc, chose que j'ai bien fait. Mais ils refusent de répondre à mes courriers, que ça soit des courriers simples, des recommandés, des emails ou quoi que ce soit d'autre, ils refusent.
La compagnie d'assurance dit ça a priori pour se débarrasser de vous. Ça, c'est bien dans un litige purement civil où on commence par une mise en demeure. Là, à partir du moment où vous laissez deux véhicules et il y en a un qui est accidenté et puis l'autre, on ne va pas vous le restituer, on n'est plus dans le civil, on est exclusivement dans le pénal. Mais indépendamment de ça, ils vous ont pas dit, écoutez, contactez Maître Truc et puis il prendra en charge votre dossier. Ça, ils vous ont pas conseillé quelqu'un?
Non, du tout. Ils m'ont dit juste qu'il fallait faire un dépôt de plainte pour vol de véhicule pour pouvoir faire des démarches à côté. Mais comme le commissariat refuse la plainte pour vol de véhicule.
Parce que c'est pas un vol, madame. Le truc c'est ça. C'est que le type est pas venu. Un jour récupérer le véhicule et aurait décidé de partir avec, vous lui confiez volontairement les clés. Alors pas pour lui dire va jouer avec mon véhicule ou va l'accidenter, mais la différence entre le vol et la qualification qui a été retenue par les policiers, l'abus de confiance, c'est ça. C'est-à-dire que spontanément, moi je vous remets quelque chose. Ouais, je sais qui vous êtes, je sais où vous habitez, je vous le remets. A priori, vous devez me le restituer. Le fait de ne pas me le restituer ou de me le restituer complètement abîmé, accidenté, on n'est plus dans la notion de vol, on est dans la notion d'abus de confiance. Et j'ai d'ailleurs du mal à comprendre que votre compagnie d'assurance n'ait pas compris cela. Vérifiez quand même, vous devez pouvoir bénéficier dans, maintenant dans 99% des dossiers, des contrats d'assurance, on a la clause défense-recours, c'est-à-dire la mise à disposition d'un avocat dont les frais sont pris en charge, alors soit en totalité, soit en partie, mais ça vous permettra peut-être de vous soulager, et d'avoir un interlocuteur avec qui vous pourrez échanger, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et puis ça permettra à l'avocat de relancer soit les services de police, soit le procureur de la République, pour essayer d'appuyer sur le truc et faire avancer les choses. Mais ces frais-là peuvent, encore une fois, peut-être pas dans leur totalité, mais peuvent être pris en charge au moins en partie.
D'accord.
Voilà, mais juridiquement, encore une fois, le nécessaire, vous l'avez déjà fait. En dehors de la plainte pour abus de confiance, il n'y a rien d'autre.
Sinon, on lui envoie Ghost.
On peut faire ça,
ouais.
Et Nico.
Ouais.
Voilà, il y a des gens qui méritent à ce qu'on leur casse
après,
les deux bras.
Après, ils vont pas taper au même endroit tous les deux.
Non,
mais,
c'est vrai.
Mais,
c'est vrai.
Ouais.
Voilà. Mais quand vous avez les bras cassés, on vous bouffe les burnes. Vous pouvez même pas vous gratter. Donc
vous pouvez récupérer les clés à ce moment-là. Bon, Tiffany, prenez le numéro de Maître Serran, peut-être. Donnez-le. Pour
oui,
tout
au cas
monde,
où,
Maître
si vous
Serran.
Avez des questions,
voilà.
Joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Méfiez-vous de vos amis.
Ah oui. Hein,
surtout si vous leur confiez deux véhicules.
Deux véhicules. Oui. Ouais, c'est... Et une femme qui ne répond pas non plus puisqu'elle n'aurait pas de réseau. Enfin, tout ça est très suspect.
Bien, Tiffany, merci de votre appel. D'autres témoignages dans un instant. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, ça sent la dernière, Maître Serran, ça sent la dernière de la saison avec vous. Alors, posez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. Après, il faudra attendre la rentrée. Et nous avons Nabila qui est avec nous, Maître Serran. Nabila, bienvenue.
Bonjour, merci à vous.
Merci Nabila, à vous.
Bonjour Nabila.
Bonjour Maître. Alors, j'ai une question à propos de la naturalisation. En fait, j'essaie d'effectuer un dossier depuis un moment. Et sur le site de la préfecture, on dit que les rendez-vous doivent être pris sur Nathalie ou un autre site. Et quand j'y vais, j'arrive pas à télécharger les pièces et j'arrive même pas à un moment donné. On me dit que ça se bloque, mais y réessayer plus tard et ça dure depuis un moment déjà.
Oui, mais c'est exactement ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire que ce système d'Internet embête les personnes qui ont besoin d'être régularisé d'un titre de séjour, d'une carte, peu importe, et les personnes qui sont sur le territoire français en situation régulière et qui souhaitent ensuite solliciter la nationalité française, on passe à nouveau par ce système internet et vous avez effectivement des réponses ou parfois des absences de réponses où on vous invite à vous reconnecter et puis vous vous reconnectez, vous avez la même chose. Alors il n'y a pas mille options. C'est-à-dire que les plus téméraires n'hésitent pas à saisir en urgence, c'est une procédure de référé, donc le tribunal administratif, mais pour être tout à fait clair, en vérité, cette procédure en urgence, c'est-à-dire qui consisterait à dire à un juge, écoutez, obliger la préfecture à me recevoir, cette procédure d'urgence, elle est surtout valable pour les personnes en situation irrégulière. Parce que par définition, si je suis sur le territoire français et j'ai pas de papier, il y a effectivement cette urgence qu'on peut comprendre. Pour une demande de nationalité française,
il y a moins d'urgence.
J'ai pas croisé de décision de justice qui dirait que moi, magistrat, je considère qu'il y a une urgence pour que monsieur ou madame dépose un dossier en vue d'une naturalisation. A priori, cette procédure, a priori, ne fonctionnerait pas pour la situation vous concernant. Mais en dehors de ça, il nous arrive parfois de revenir au vieux système d'avant internet, c'est-à-dire qu'on on envoie le dossier en recommandé avec accusé de réception. Alors je promets pas un retour systématique dans tous les dossiers, ça dépend d'abord des préfectures et ça dépend des personnes qui gèrent le dossier, mais parfois c'est ça reste, ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça, plus pratique que le système internet. Alors soit on vous répond et puis vous avez des échanges avec la préfecture, soit on vous invite à vous connecter sur un site qui est un site différent de celui qu'on retrouve habituellement, et c'est un site sur lequel effectivement c'est entre guillemets beaucoup plus fluide et vous pouvez déposer le dossier. Donc si vous avez fait ça à plusieurs reprises, je vous invite moi à faire une capture d'écran, à imprimer la preuve comme quoi vous avez entre guillemets déjà essayé de passer par le circuit traditionnel. Et si ça n'aboutit pas, envoyez le dossier en recommandé à R avec ses documents en disant ça fait une fois, deux fois, dix fois que j'essaie de me connecter et que voilà et que ça ne fonctionne pas. Vous devriez avoir un retour des autorités préfectorales.
D'accord.
Voilà, mais c'est malheureusement la seule option. Hein.
C'est la seule option.
Ouais, okay.
Ok, mais écoutez, je vais essayer de faire ça et puis on verra. Et voilà, donc ok, voilà, on va faire ça. C'est embêtant pour moi, mais bon.
J'entends bien, mais je vous dis, alors, encore une fois, moi je peux comprendre cette volonté d'engager ce type de procédure, mais honnêtement, la procédure de référé, je vois pas juridiquement comment elle pourrait tenir. Voilà, on va vous dire, madame, vous avez, voilà, vous êtes en situation régulière, il n'y a pas d'urgence, donc voilà, c'est comme ça, et puis vous patienterez. Donc, cette procédure de référé ne concerne pas les personnes dans votre situation.
Ok, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout ça.
Merci à vous pour votre appel et bon courage.
Merci.
Merci,
bon courage.
Nabila.
Au revoir. Merci, au revoir.
Au revoir. On accueille Mohamed au 01 53 48 3000. Mohamed, bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur Philippe.
Bonjour,
monsieur Sirane.
Bonjour, Mohamed.
Bonjour à tout le monde.
Alors, Mohamed, maintenant que les présentations sont faites, on vous écoute.
Voilà. Moi, j'ai une question. Bon, c'est... J'ai fait pour faire renouvellement de mon titre de séjour de 10 ans, c'est le troisième. Et j'ai fait en principe espérer mois de septembre. Et bon, j'ai anticipé 4 mois à l'avance, au mois de mai, j'ai fait la demande sur Internet, bon, avec plaisir ici. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous le mois de janvier, début janvier, pour mois d'octobre. Et bon, ils m'ont envoyé la confirmation du rendez-vous avec des attestations à remplir, à imprimer et tout, et à remplir et tout. Et par contre, moi, le c'est le troisième titre de séjour de 10 ans. Et ça se périme au mois de septembre. Et j'ai rendez-vous au mois d'octobre et j'ai peur que l'employeur, il va me serrer la ceinture au niveau de ça.
Ouais, alors c'est une question qui est souvent posée. Évidemment, les autorités préfectorales ne vous reçoivent jamais en temps et en heure, mais votre employeur pourra pas vous embêter en disant mais le titre est expiré à partir du moment où, si à ce moment-là il vous le demande, à partir du moment où vous avez un justificatif. C'est-à-dire que si vous présentez un document qui dit j'ai rendez-vous, quand bien même ce serait un mois, deux mois, même six mois après, il n'y a pas de problème.
Oui, j'ai rendez-vous parce que moi j'ai anticipé.
Et vous avez raison.
Mois de mai. Mois de fin de mai. En principe, c'est trois mois. Avant, c'était trois mois et on fait la queue comme tout le monde et tout. Et là, j'ai anticipé. Comme par hasard, j'ai dit tiens, quatre mois ou cinq mois, je vais faire à l'avance. J'ai essayé plusieurs tentations et après, ils m'ont envoyé un mail comme quoi il ne faut pas refaire la demande. On va vous envoyer entièrement le rendez-vous. Et début juin, ils m'ont envoyé le rendez-vous pour avec la date et tout pour octobre.
D'accord. Donc, après l'expiration de votre titre.
Oui.
Après. Voilà. Mais donc, ce qui vous inquiète, c'est quoi? C'est de dire, ben, mon titre va être expiré, j'ai pas encore de rendez-vous à la préfecture? Ou en tout cas, j'ai un rendez-vous, mais quasiment un mois après? C'est ça qui vous fait peur?
Oui, c'est ça.
Mais
bon, faire peur, mais pour anticiper, quoi. Parce
non,
que
mais
ils apprennent que ça.
Je comprends bien, mais que ce soit l'employeur, que ce soit des policiers, des gendarmes qui seraient amenés à vous contrôler, à partir du moment où vous avez sur vous le document qui dit j'ai rendez-vous, encore une fois, même si c'est après l'expiration de votre carte, mais j'ai rendez-vous un mois après, mais même six mois après, peu importe. il n'y a personne qui peut vous embêter. Vous êtes toujours considéré comme étant en situation régulière et vous pouvez justifier d'un rendez-vous. En fait, encore une fois, on ne peut pas vous reprocher à vous le rendez-vous qui a été donné. Ça relève de la compétence de la préfecture. Donc, vous imprimez simplement le document, vous le gardez sur vous. Si votre patron vous le demande, vous lui donnez. Si demain, il y a un contrôle de police ou de gendarmerie, vous le présentez. Mais il n'y a personne qui pourra vous embêter sur ce terrain-là.
Ok, merci.
Voilà, il n'y a vraiment pas d'inquiétude, hein, franchement.
Oui, parce que c'est mon troisième titre de séjour de 10 ans. Et voilà, et bon, qu'est-ce que... On plie à la loi française, voilà. On est là, et voilà.
Non, mais il n'y a pas de problème.
D'accord, je vous remercie, monsieur Serrad.
Merci
bonjour,
monsieur votre appel.
Merci, Mohamed, j'espère que vous êtes rassuré.
Oui, rassuré. Monsieur Fondel aussi, on va.
Ah voilà, il y en a aussi pour Fodil, mais vous savez, on a eu des soucis avec Fodil ce matin, il a failli nous en manquer un bout.
Ouais. Et c'est le bout gauche de l'entrejambe gauche
qui a failli partir. Ouais. Mais bon, on a sauvé tout ça. Merci Mohamed, très belle
idée. Merci Mohamed.
Est-ce qu'on a le temps de prendre un auditeur ou une auditrice là? Oui, alors oui, enfin 2 minutes, moi j'en ai besoin de 4. Alors on va accueillir Kaina. Kaina, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Kaina. Alors, vous avez compris qu'on a un peu de temps, donc allez-y.
D'accord, ben, je vous remercie. Déjà, merci pour l'émission et désolée de vous déranger. Ben, ma question, c'est bien en fait, parce que je suis en cours de divorce avec mon mari. On a un jugement en fait provisoire. Il y a une interdiction de quitter le territoire français pour mon fils mineur âgé de 15 ans. En fait, ma question est, je voulais savoir, est-ce que, en fait, après le jugement, il y aura, par exemple, une... je sais pas, en fait, est-ce que ça sera, en fait, automatiquement signalé dans tous les aéroports? Si, par exemple, je voulais, par exemple, me déplacer, car mon mari voulait pas me signer, en fait, un document pour que mon fils passera ses vacances.
D'accord.
Alors,
j'ai compris la question, mais la règle, madame, c'est qu'à partir du moment où il y a cette mention qui apparaît sur une décision, alors peut-être demandée par vous, peut-être par monsieur, peu importe, mais qui a été accordée par le magistrat, si monsieur, pour des raisons lambda, ne veut pas vous signer le moindre document, la moindre autorisation, évidemment, vous pouvez avoir des difficultés à la frontière, puisqu'on vous dira que il y a une interdiction de sortie du territoire. Et l'interdiction de sortie du territoire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne sors pas du territoire. Donc il n'y a pas d'autre option, si ce n'est peut-être de revenir devant le juge. Alors soit avant le jugement définitif, et vous dites, écoutez, ouais, moi ça me cause des difficultés, et puis j'ai besoin qu'on retire cette mention. Soit dans la deuxième partie de la procédure, il faudrait, mais il faut que ce soit le cas pour les deux parties, il faudrait demander à ce que cette mention n'apparaisse pas. Mais qui a demandé ça? C'est monsieur ou c'est vous?
Du coup, en fait, monsieur, parce qu'il est dans une situation en fait irrégulière. En fait, il m'a dit, il faut que tu t'arrêtes la démarche de divorce et qu'une signe pour avoir ma carte de séjour. Sinon, le petit, bon, il a 15 ans. Il m'a dit, il va pas, tu vas galérer avec lui et il va pas passer ses vacances à l'étranger.
Bah, en règle générale, madame, il faut un motif sérieux pour demander l'interdiction de sortie du territoire. Et dans l'histoire que vous me racontez, en règle générale, quand monsieur est en situation irrégulière, c'est plutôt madame qui demande à ce que l'interdiction du territoire soit prononcée, en se disant, s'il part au pays, il peut prendre l'enfant et puis on pourra plus le localiser. Donc je suis surpris que monsieur, en situation irrégulière, ait un quelconque intérêt à demander ça. Il n'y a aucun intérêt pour lui demander ça. Puisque si... Alors, je ne sais pas si vous êtes de nationalité française ou pas, mais si vous vivez en France, bon, bah en plus. Donc, on se doute bien que vous n'allez pas aller au pays, laisser l'enfant là-bas. Le seul qui aurait intérêt à faire ça, en tout cas, même pas dans la pratique, mais pour embêter l'autre, c'est monsieur qui aurait pu vous dire, bah, je vais t'embêter, j'ai pas de papier, j'ai rien à perdre, je vais aller au pays, je vais prendre l'enfant, et puis il ne reviendra plus. Donc, j'ai du mal à comprendre que monsieur ait pu, un, d'abord solliciter ça, et deux, que le magistrat ait pu l'accorder.
Voilà, il n'a plus de papier, en fait. Parce qu'au
bah oui, j'entends bien, justement. Voilà. Mais donc, quel est l'intérêt pour lui de demander une interdiction de sortie du territoire s'il n'a plus de papier?
Vraiment, je ne comprends pas. Voilà, apparemment, j'ai le jugement par rapport à ça.
Ouais, bah, faudrait
l'autorité parentale.
Oui, d'accord, ça c'est normal.
Entre nous les deux, en normal. Sachant que il connaît pas son fils. Il l'a vu deux fois dans sa vie, quand il avait un an et quand il avait 11 ans.
Ouais, mais ça, alors si encore une fois, c'est pas forcément justifié pour retirer l'autorité parentale. Ça reste le père de l'enfant. Il faudrait un acte grave pour que ce soit retiré. Mais il faudrait peut-être dialoguer davantage avec votre avocat et voir un peu les demandes à formuler. Mais ça me semble curieux.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Kaina, Maître Serran, rappelez votre numéro de téléphone que les auditeurs de BFM composeront pendant les vacances.
C'est vrai, n'hésitez pas. 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, puisque vous partez rejoindre l'imam Abdelali Mamoun. Hein.
Ouais, c'est ça, à Mornilla.
Voilà, en vacances.
Ouais, en vacances, ouais.
Ah, mais ils ont la belle vue, les chroniqueurs de BFM. Hein.
Le Razaouat et Mornilla, c'est probablement les plus beaux endroits d'Algérie. Voilà.
Merci Maître Serran. Allez, dans un instant, l'islam au présent.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.